oui, 9h30, bienvenue sur l'antenne d'Hervé, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour encore une grande matinée de sport hein, sur l'antenne d'Hervé. On parlera du Téléthon dans la deuxième partie de cette émission, entre 10h et 11h, hein, on aura des responsables du Téléthon sur Rambouillet, Le Perret, Saint-Arnoult et Poigny-la-Forêt, hein, où le sport sera naturellement très largement représenté à l'occasion de ce grand week-end de Téléthon qu'on suivra naturellement sur notre antenne dans 15 jours. On va parler catch aussi dans quelques minutes avec Marc Mercier, hein, le président de la Fédération Française de Catch Professionnel, 8 fois champion du monde. On aura donc un champion du monde dans nos studios. Et puis on aura un gros fil rouge, on a un gros fil rouge d'ailleurs dans cette matinée sportive, hein, ce qui fait qu'il n'y aura pas ce matin donc tribune foot. Eh bien on a un gros fil rouge, c'est la course des 4 châteaux. Et tout de suite, eh bien on rejoint le régional de l'étape, le local de l'étape, notre ami Christian Caron devant la mairie de Chevreuse. Salut Christian.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors comment ça se passe ?
Bah ça se passe bien, il fait très très bon ce matin, contrairement à hier matin où il y avait un peu de givre. Là ce matin il fait très très doux, un bon temps pour courir bien qu'il y ait un petit peu d'humidité dans l'air. Et petit à petit les coureurs commencent à arriver près de cette mairie de Chevreuse où tout à l'heure à 9h30 sera donné le départ pour les femmes et à 9h38, c'est précis, le départ pour les hommes de cette course qui compte 18,5 km et qui nous permettra de voir les châteaux, puisque ça s'appelle la route des 4 châteaux, ça passe par 4 châteaux, le château de Mauvières, le château de Méridon, le château de Breteuil, pour finir par le château de Coubertin qui est à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et tout ça au pied de la du château de la Madeleine, qui est, comme vous le savez, le siège de l'organisme qui s'occupe du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse.
Autrement dit, c'est le sport et la culture ce matin.
C'est le sport, la culture, l'histoire, la visite, l'écologie aussi, puisque c'est une course qui est passée sous le signe de l'écologie. Enfin, puis en plus, une très belle course qui passe par des beaux châteaux, un parcours magnifique, sur route, dans des chemins, un peu partout, dans les parcs de ces châteaux.
Alors Christian, on était ensemble l'année dernière, hein, c'était fin octobre, oui. Les conditions météo étaient complètement différentes de celles de ce matin. Hein.
Là aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas de pluie. Donc j'espère que ça va durer.
Donc c'est un temps idéal pour la pratique de la course à pied.
Idéal, il y a un petit peu d'humidité dans l'air quand même, mais enfin c'est assez idéal parce qu'il fait pas froid, donc on n'aura pas trop besoin de perdre des calories pour se réchauffer. Donc c'est un bon temps pour la course à pied, oui.
Alors il y a 2400 participants.
2400 participants partagés entre hommes et femmes. Je ne connais pas la répartition exacte entre les deux, mais il y a 2000 participants. Les inscriptions étaient clôturées il y a déjà un moment, puisque c'est la première fois qu'il y a autant de participants dans cette course.
Oui, on a battu effectivement encore
battu
des...
Battu un record. Hein.
Mais ça, c'est un phénomène général maintenant aux épreuves de course à pied. Hein. On bat des records à chaque fois d'engagement et d'inscription. C'est vraiment un phénomène, la course à pied, qui ne se dément pas.
Hein. Ça se dément pas. Il y a beaucoup d'adeptes. Il y a des gens bon, qui se mettent à la course à pied sans avoir jamais vraiment trop couru avant. Bon, eh ben, il faut faire attention quand même parce qu'on ne court pas comme ça sans déjà faire au moins une visite médicale pour prouver qu'on est bien apte à faire de la course à pied, hein, c'est important, parce qu'on a bien connu des accidents dans certaines courses, donc il faut faire attention, mais la course à pied c'est une belle chose, et puis c'est un sport qui permet après de faire d'autres sports plus importants, je pense au triathlon, à des sports comme ça où on fait pas que de la course à pied en fait.
Effectivement, vous parliez d'accidents. Eh ben, il y a eu, je crois, il y a quelques années, d'ailleurs, un accident dans cette épreuve de la course des 4 châteaux, ce qui fait que l'épreuve avait été interrompue pendant une bonne année. Hein.
Oui.
Et elle est repartie sous l'initiative donc de Stéphane Schubert. Alors, c'est quand même une épreuve un peu bizarrement située dans le calendrier, parce que fin novembre, il n'y a plus beaucoup d'épreuves sur route.
Non, il n'y a plus beaucoup. En général, les épreuves sur route, c'est jusqu'à la fin octobre, en principe. Et puis là, cette année, ils l'ont décalé. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ils l'ont mis en novembre. L'année dernière, c'était fin octobre. C'était le 26 octobre. Là, elle a été décalée en novembre. Je ne sais pas.
Oui, alors, Christian, justement, est-ce qu'il y a une façon de se préparer comme ça dans une course fin novembre, quoi, parce que il n'y a plus de course sur route, il faut rester quand même
compétitif. Alors déjà, comme je disais, le temps, c'est important. S'il fait trop froid, on va dépenser des calories pour combattre le froid. Donc là, aujourd'hui, heureusement, il ne fait pas trop froid. Donc dépenser des calories, ça veut dire se ravitailler. Alors dans cette course, eh bien il y a deux ravitaillements qui sont prévus, un après le 5e kilomètre et un autre au 11e kilomètre, ainsi qu'un ravitaillement à l'arrivée. C'est très important. Bon, les coureurs qui sont là ici maintenant, ils se sont levés tôt ce matin pour se préparer, prendre un bon petit déjeuner, avoir le temps de le digérer, et puis ensuite faire la route jusqu'ici, et puis s'échauffer avant de partir, parce que l'échauffement, c'est aussi important. Par exemple, quand vous montez dans votre voiture, vous la démarrez le matin, vous faites pas tout de suite du 200 à l'heure, et ben quand on fait de la course à pied, c'est un peu pareil. Il faut d'abord s'échauffer doucement, musculairement, échauffer tous les muscles, les jambes, ça, habituer le cœur à l'effort, et puis ensuite, eh bien, partir pour faire ces 18,5 km. Alors, les premiers, ceux qui sont un peu des champions, ils mettront moins d'une heure pour faire ces 18 km. Et puis, les suivants, ils mettront un peu plus de temps, hein. Il y en a qui mettront peut-être 2 heures, peut-être plus. Pour faire résumer, l'important, c'est de finir la course.
Voilà, justement, la course, elle risque de se jouer dès le départ. Ceux qui vont jouer la victoire finale vont se positionner
je pense que tout le monde connaît la rue où est donné le départ à Chevreuse. C'est pas une rue qui n'est pas très très large. Donc les premières places vont sûrement être chères. Il va y avoir de la bousculade. Au départ, les gens vont pousser. 2400 personnes dans une petite rue comme ça, ça fait plusieurs couches de participants. Et il va y avoir un peu de bousculade au départ. Il est toujours important d'être dans les premiers quand on veut gagner une course, d'être déjà dans les premiers au départ pour bien se positionner. Bon, il y a la chance d'avoir une très très grande ligne droite au départ. Il n'y a pas de virage à prendre tout de suite. Le virage, il intervient seulement au bout de 2 kilomètres environ. Donc il faudra bien se positionner pour être sûr d'être bien placé. Et puis ensuite, quand on est en tête de course, eh bien maintenir la tête pour gagner la course. Hein.
Et le parcours, d'une façon générale, il est comment? Est-ce qu'il y a un passage difficile dans ces 18 kilomètres?
Il y a des passages difficiles. Alors, comme les féminines partent avant, forcément les garçons qui vont plus vite. Alors là, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a déjà des batteries qui se sont mises en route là. Voilà, donc les filles partent d'abord, les garçons, certains vont les rattraper. Alors il y a des petits endroits où c'est pas très 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 large, donc il va falloir faire attention, puisque non seulement c'est pas large, mais ensuite il y a une sorte de ravin à côté de la route. Et puis il y a des montées, des descentes, il y a des faux plats, il y a des endroits pavés, il y a des endroits sur route. Il va falloir faire attention, parce que malgré qu'il fasse doux, les chaussées sont assez humides et faire attention où on met les pieds.
Il y a une boule au ventre avant de partir, comme ça, Christian?
J'ai pas entendu la question.
Il y a une boule au ventre avant de partir, comme ça?
Pour certains, oui, une petite appréhension. Mais enfin, en général, à part des gens qui font ça de temps en temps, en général, les coureurs, ils font pas mal de courses dans l'année, donc c'est des vieux routards, si j'ose dire.
Bien sûr.
Et ils ont l'habitude de courir et... à la fin, la boule, à part celui qui va finir premier, mais il y en a certains qui savent qu'ils finiront jamais premier. Pour eux, l'important, c'est plus le temps que la place, c'est-à-dire d'essayer de faire un temps meilleur que ce qu'ils ont fait l'année précédente ou dans une autre course, d'essayer de battre leur record. Ils font plus une course contre eux-mêmes en essayant de battre leur record que d'essayer de d'être dans les premiers de la course. Ceux qui sont dans les premiers, ils vont essayer de finir premier, mais celui qui sait très bien qu'il ne pourra pas être dans les premiers, il fait plus une course contre lui et puis évidemment contre les autres, puisque des fois on prend un groupe, on essaye de suivre des gens qui vont à la même vitesse pour essayer de pas courir tout seul, de s'entraîner les uns les autres.
Alors,
parce que là, 2400 personnes, ça va faire des paquets de gens ensemble. Un bon moment du parcours.
Alors, on parlait du ravitaillement. Qu'est-ce qu'on mange dans un ravitaillement?
Dans les ravitaillements, il y a déjà de l'eau. On donne de l'eau. Des fois, avec du sucre. On donne des oranges, du citron. Et puis, des fruits secs. Alors, ça peut être du raisin. C'est souvent des raisins secs qu'on donne. Pardon, excuse-moi. J'ai pris un petit peu froid là, malgré qu'il fasse pas trop froid. Alors il y en a, les premiers, ils vont certainement pas passer au ravitaillement, peut-être de l'eau. Et puis les derniers, ils ont besoin de reprendre des forces pour essayer de finir la course et ils s'arrêteront sûrement au ravitaillement pour consommer. Alors il y en a qui préféreront de l'eau, d'autres du sucre, d'autres manger quelque chose. parce qu'il y en a peut-être qui se sont pas très bien alimentés ce matin, on n'est pas tous forcément très très respectueux des normes qu'on doit respecter pour faire une course à pied.
Très bien, alors on peut quand même tirer un coup de chapeau à l'organisation, parce que ce matin, ils étaient apparemment très occupés.
Ah oui, là, ce matin, quand j'étais les voir, ils étaient occupés, ils attendaient donc les 2400 personnes qui devaient retirer leur dossard. Il y en a certains qui pouvaient déjà retirer leur dossard hier soir, mais il faut habiter dans la région. Ceux qui habitent un petit peu loin, ben, ils sont venus ce matin. Donc, quand j'étais dans le gymnase tout à l'heure, il y avait au moins une quinzaine de personnes qui étaient là... Pour donner les dossards à tous ceux qui s'étaient inscrits. Donc, alors, il y a des dossards bleus pour les garçons et des dossards rouges pour les dames.
D'accord, ok. Voilà. Alors, c'est la Sainte-Catherine aujourd'hui.
C'est la Sainte-Catherine. Oui. Les organisateurs avaient demandé aux concurrents s'ils voulaient venir déguiser. Jusqu'à présent, je n'ai vu personne de déguisé.
Ah bon, il n'y a pas de Catherine.
Je ne sais pas s'il y a des déguisements, j'ai vu personne. Alors voilà, il y a un coureur que j'ai à côté de moi,
oui.
Qui s'appelle Michel, c'est quelqu'un que je connais très très bien, qui courait déjà à Suresnes, et puis qui va... Alors, Michel, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que tu penses faire aujourd'hui
Aujourd'hui, déjà, dans les 20-25 premiers, ça serait bien, mais c'est surtout de venir ici pour faire une course nature, et profiter surtout du contexte et apprécier tout le paysage de la vallée de Chevreuse.
Voilà, tu cours souvent le dimanche ?
De moins en moins, mais j'essaie de trouver des cours justement qui allient le panorama et puis la qualité de l'organisation.
Voilà, on va te laisser finir ton échauffement, merci. Voilà, c'était Michel, c'est un copain avec qui je faisais de l'athlétisme dans le temps, il y a longtemps déjà, mais lui il a continué, moi j'ai arrêté, maintenant je tiens le micro,
et
lui il tient la route.
Bah ça fait comme nous, hein,
voilà.
Effectivement. Bah oui. Alors, donc effectivement, on parlait de l'équipe organisatrice, parce que, est-ce qu'au niveau parking, finalement, ça pose pas de problème, tout va bien?
Moi, j'ai trouvé facilement de la place. Je suis arrivé de bonne heure. Il y a des parkings un peu partout. Mm-hmm. C'est très, très bien fléché, affiché. Quand on cherche, par exemple, l'endroit où on donne des dossards, il y a des affiches partout. Ensuite, il y a des panneaux partout pour vous indiquer l'endroit où va être donné le départ. Enfin, l'organisation a l'air très, très, très au point.
Oui, puis il y a une bonne nouvelle, c'est que les RER fonctionnent.
Et les RER fonctionnent, oui, parce qu'il y a peut-être des gens qui étaient inquiets pour venir de Paris ou de banlieue à Saint-Rémy-les-Chevreuses où il y a la gare du RER, eh bien, il fonctionne et il y a même une navette qui est organisée entre la gare du RER et l'endroit où on donne les dossards.
D'accord. Alors, je voulais qu'on revienne un peu quand même sur la préparation, parce que ensuite, on va parler catch, donc on se retrouvera juste en fin de... après, donc, le catch et l'avenue de Marc Mercier qui vient d'ailleurs d'entrer dans nos studios. Comment on arrive à s'échauffer? On part faire un kilomètre, deux kilomètres, tout doucement, à 70%?
Oui, 10-20 minutes. J'ai vu des dames tout à l'heure qui m'ont dit qu'elles ne s'échauffaient pas, elles partaient tout doucement. Bon, il faut pas partir trop vite, parce que si on s'échauffe pas puis qu'on part tout de suite trop vite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu dangereux, on risque des claquages et puis peut-être de ne pas finir la course. Donc là, on va s'échauffer 10-15 minutes, mais il va falloir faire attention, une fois qu'on va être chaud, de ne pas se refroidir. C'est pour ça que peut-être quelquefois vous avez vu des gens qui ont des sacs poubelles sur eux.
Oui.
C'est-à-dire que le sac poubelle, après on peut l'abandonner. Tandis que quand on s'échauffe, on a souvent un caouet ou un survêtement à soi et on n'a pas envie de le laisser, parce que si on le laisse sur le bord de la route, on est sûr de ne pas le retrouver à la fin de la course. Donc il y en a qui mettent des sacs poubelles, il faut un trou en haut, deux trous pour les bras, et puis une fois qu'ils se sont échauffés, avant que le départ soit donné, puisque tout à l'heure on a dit qu'il faut essayer d'avoir une bonne place sur la ligne de départ, si on veut pas être positionné dans les derniers, il faut couper l'échauffement des fois 10-15 minutes avant le départ, et pour trouver une bonne place, il faut rester chaud, et à ce moment-là, on essaye de se mettre quelque chose. Alors donc, un sac poubelle ou un vieux t-shirt ou je sais pas quoi, quelque chose qu'on va abandonner sur le bord de la route.
Alors, est-ce que c'est aussi la fête dans la ville, dans le village, qui est Chevreuse, qui est une fête, qui est une ville de sport?
Je sais pas si tu entends derrière moi, peu des tam-tams là, qui jouent de la musique. Il y avait tout à l'heure une sono qui mettait de la musique. J'ai pas vu beaucoup de spectateurs. Mais là, je ne peux pas trop m'approcher de l'endroit du départ, parce que la sono fait beaucoup de bruit. Donc, je reste un petit peu derrière la mairie, mais Oui, donc Chevreuse, j'ai pas vraiment vu la fête, mais peut-être que sur le parcours, il y a, oui, il y a des gens. Mais il faut dire qu'il est de bonne heure, hein, c'est dimanche, il est 9h15. Et il y a encore une maison là devant moi où les volets sont encore fermés, les gens ne sont peut-être pas réveillés. Oui. Je pense que le bruit du tam-tam va peut-être les réveiller. Voilà.
Voilà, effectivement, en tout cas, les gens vont sortir, c'est sûr, sur le pas de leur porte.
Ah bah, hein, je pense, parce que là, ça va. 2500 personnes dans la rue, ça fait quand même du bruit, hein.
Ouais, et effectivement, encore chapeau à tous les organisateurs et à tous ces bénévoles, hein, qui vont garder les carrefours. Et
déjà, moi, je suis arrivé sur les circuits, il n'était pas encore 8 heures et tous les gens étaient déjà en place pour nous indiquer où nous arrêter et tout ça. Hein. Là, l'organisation, chapeau, ils étaient là de bonne heure ce matin.
Très bien. Alors, Christian, on va rappeler donc d'abord le lieu de départ. C'est juste devant la mairie de Chevreuse.
Voilà, c'est juste devant la mairie de Chevreuse. Ça va partir en direction de Dampierre et puis arriver à la hauteur du château de Mauvières. On va rentrer dans le parc sur la gauche. Et puis ensuite, eh bien, on passera par le château de Méridon, Breteuil. Et on finira par le château de Coubertin. Et on passera un petit bout dans Saint-Rémy-les-Chevreuses avant d'arriver au parc des sports de Chevreuse.
Donc on va
situer l'arrivée.
On va rappeler donc 9h30 pour les femmes.
Pour les femmes et 9h38 pour les messieurs.
Très bien. Et donc en combien de temps le vainqueur est attendu? Une cinquantaine de minutes, non?
Ouais, une cinquantaine de minutes pour le premier, oui.
Et
pour les premiers, je pense qu'il sera pas tout seul.
Oui, bah faut espérer, parce que j'allais justement le dire, l'année dernière, il y a eu un véritable cavalier seul, donc il faut espérer que cette année, il y aura un peu plus de suspense.
Bah on verra ça tout à l'heure, hein, au moment de l'arrivée.
Très bien, merci en tout cas, Christian, et puis on aura l'occasion de se retrouver, comme je l'ai dit, tout au long de cette matinée.
Je vais assister au départ, je vais rester jusqu'au moment du départ, et puis ensuite je me rendrai près de la ligne d'arrivée, où là je vous donnerai peut-être tout à l'heure des passages à certains kilomètres, si l'organisation nous fait des points en cours de route, j'espère qu'il y en aura, pour que je vous puisse donner la situation de la course.
Merci Christian, et en tout cas tout est fait pour travailler dans de très bonnes conditions du côté de la course des Côtes-Châteaux.
Il pleut pas, déjà c'est bien.
Voilà, c'est très bien. Merci Christian, à tout à l'heure. Donc ce sera le fil rouge de cette matinée sportive, donc cette course des Côtes-Châteaux de Chevreuse, hein, située effectivement de façon un peu bizarroïde dans le calendrier des courses à pied, en plein repos donc des épreuves sur route. Voilà, donc on va maintenant écouter un petit break musical, la pub, et puis ensuite on va parler catch avec Marc Mercier qui piaffe d'impatience de nous parler comment il va relancer ce sport en France. On y va. Marc, merci. Bonjour.
Bonjour.
Merci en tout cas d'être venu nous parler d'un sport qui a bercé notre enfance, le catch.
Oui, merci à votre radio aussi de m'inviter pour en parler.
Alors, comment c'est arrivé d'abord cette passion pour le catch, hein? On va rappeler que vous êtes 8 fois champion du monde. C'est arrivé comment?
Bah écoutez, moi je peux dire aujourd'hui à 50 ans, bien frappé, que je suis d'une ancienne époque quand même, c'est-à-dire que je suis de l'époque de transition des Langes Blancs Bourreaux de Béthune et de moi Mercier. C'est-à-dire que je suis arrivé dans les années 70 dans ce métier uniquement parce que mon père, Guy Mercier, était un des catcheurs très connus en France et que j'étais attiré par ce métier. Très franchement, j'étais attiré par les métiers du spectacle. J'aurais pu faire chanteur, j'aurais fait chanteur. Mais comme j'étais bon en lutte, je me suis dirigé vers le catch, que mon père ne voulait pas d'ailleurs. Et puis, j'ai eu cette chance inouïe d'être pris en main tout de suite, j'avais 16 ans et demi, par un grand monsieur du catch, qui était un ancien catcheur et qui était le plus grand organisateur de l'époque, qui s'appelle Roger Delaporte, qui était propriétaire de l'Élysée Montmartre. Et il avait trouvé, lui, à l'époque, que j'avais un physique atypique par rapport au monde du catch, puisque j'étais grand, sec, musclé mais sec, et j'avais pas cette gueule cassée qu'avaient les catcheurs de l'époque, qui eux bien sûr avaient plusieurs années de catch dans les oreilles. Alors lui, il a joué là-dessus, sur ce physique-là, et on s'est très vite aperçu que ça a marché. C'est-à-dire que ce qu'il a investi sur moi dans les années 70, ça s'est trouvé impeccable dans les années 80, puisque j'avais les médias derrière moi, je plaisais beaucoup et j'ai amené un autre public, si vous préférez. Donc voilà, j'ai connu toute cette époque de l'Élysée-Montmartre où j'ai laissé des kilos et des kilos de sueur.
Oui, c'était l'époque glorieuse, hein, du catch.
Oui, alors c'était l'époque glorieuse, néanmoins c'était le début de la fin. Hein. Ouais. Il faut savoir que fin 70, début 80, c'était le début de la fin. Le catch, si vous préférez, il y a eu, je dirais, 3 sessions, on va l'appeler comme ça, dans notre époque du catch contemporaine. Il y a eu la première époque de glam, champion olympique de lutte, qui a ramené le catch des États-Unis. Où le catch aux États-Unis se jouait dans les caves, hein, un peu comme les combats de coq, voyez-vous. Mm-hmm. Deglane a ramené ça, mais le catch était un milieu très fermé, c'était plus de la lutte professionnelle qu'autre chose. Et d'ailleurs, la Fédération française de catch, que j'ai aujourd'hui, dont je suis le président, existait bien puisque c'était la FFL, Fédération française de lutte, qui avait fait un secteur professionnel avec le retour en France de Deglane, avec le secteur professionnel qui était du catch et qui était géré par Paoli. Monsieur Paoli qui était le seul organisateur de catch. Donc, première époque, tout de suite après la guerre, le catch très sérieux, très dur, avec des gars comme Gilbert Leduc, Deglane, tous ces gens-là. Et ça a marché. Ça a marché parce que c'était un sport spectacle déjà, mais de grosse envergure, où les gars, c'était vraiment... Mais c'était très statique, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Il y a eu la deuxième session, donc deuxième période, où là, d'autres organisateurs de catch sont venus, des anciens lutteurs, des gens comme ça, mais plus businessmen que sportifs dans la tête. Et eux, ils ont dit, il y a une source à pognon là-dedans, donc nous allons créer des personnages. Là, la deuxième époque, ça a été le bourreau de Béthune, ouais. L'ange blanc, Duranton, Ben Chimoun, tous ces gens-là, le petit prince, etc. Là, on passait à un catch qui était plus un catch... personnage, si vous préférez, qu'un catch vraiment, vraiment sérieux basé sur la lutte professionnelle. Néanmoins, ça restait quand même sérieux. Mais plus on allait dans le temps, plus les managers se sont aperçus que des mecs super costauds comme ça, qui sortaient des Jeux Olympiques pour faire du catch, il n'y en avait pas tellement, en fin de compte, et qu'il fallait en prendre un peu partout. Ils ont commencé à ouvrir les portes. Donc là, et je m'excuse parce que je vous ai dit Le Petit Prince tout à l'heure et Ben Chimoun, c'est là qu'est arrivé le début de la troisième session et troisième période avec les Ben Chimoun, Petit Prince et tout, qui avaient énormément de charisme, puisque aujourd'hui encore on en parle. Simplement, c'était plus du catch un peu rigolo, voyez-vous. Mmh. C'était plus du tout le catch sérieux.
Ouais,
alors,
quoi.
Mais néanmoins, les médias étaient derrière, suivaient. De là sont sortis tous les grands journalistes ou tous les grands animateurs qu'on connaît.
Oui, Michel Drucker, Robert Chapat, Roger Coudert, Daniel Cazal, ils ont tous fait catch.
Et on en passe. Ah ouais. Et là, donc, ces gens-là gagnaient leur vie avec ça. Après, ils se sont dirigés sur d'autres secteurs, ils ont continué. Puis, à un moment donné, y a eu un essoufflement. Parce que qu'est-ce qui se passait? Évidemment, vous aviez un manager qui avait l'ange blanc, mais autour, vous aviez 10 managers sur Paris. Parce qu'il faut savoir qu'à Paris, rien que sur la ville de Paris, il y avait 7 salles ouvertes par semaine de catch. Vous aviez 7 spectacles de catch par semaine, un par jour. Palais des Sports, Wagram, l'Élysée Montmartre, ouais. La Mutualité, le Veldiv, enfin, et j'en passe. Il y en avait d'autres, je ne les ai pas toutes en tête. Bon. Alors quand vous aviez, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Ange Blanc, qui est le plus connu, presque 30 ans après sa mort, on en parle encore, de Francisco Pino Fanera, dit l'Ange Blanc, c'était Maurice Durand, le matchmaker manager bien connu de l'époque, qui avait créé ce personnage, l'Ange Blanc. Simplement, les autres managers, eux, ils gagnaient moins de pognon, ils n'avaient pas l'Ange Blanc. Qu'est-ce qu'ils faisaient, d'après vous? Eh bien, ils prenaient un lambda, ils le mettaient en l'Ange Blanc. Mmh. Ce qui veut dire que le soir, sur la chaîne, la seule et unique chaîne de télévision, vous aviez en direct du Palais des Sports de la Porte de Versailles l'Ange Blanc. Et dans votre ville de Rennes ou de Poitiers, vous aviez l'Ange Blanc. Ah ouais. Donc là, je crois que mes ancêtres matchmaker manager ont pris un peu les médias et le public pour des cons. À partir de là, effectivement, ça n'a plus très très bien marché. D'autre part, la vraie raison, vous me la posiez tout à l'heure et j'attendais d'être à l'antenne pour vous le dire. La vraie raison, c'est qu'il y a un monsieur qui est mon père, qui s'appelle Guy Mercier, associé à un autre lutteur de haut niveau, Michel Saunier, qu'on fait un statut social dans ce métier-là. Alors là, ça a été très dur, imaginez-vous. Que les catcheurs, c'était des gars qui étaient payés au cul du camion, qui gagnaient beaucoup d'argent, certes, mais payés au cul du camion sans assurance sociale. Mmh. Quand ils avaient un accident, c'était pour eux. Okay, il y avait des accidents graves, des ruptures de cervicales, des choses comme ça, des tétraplégies, paraplégies, etc. Bon. Et un jour, il s'est passé que le bourreau de Béthune vient décéder. Et mon père, quand il va à l'enterrement du bourreau de Béthune, il s'aperçoit qu'on voit le corps à travers les planches. Donc il dit, c'est pas possible. Un mec de cette valeur, l'enterrer comme un chien, c'est pas possible. Et là, mon père, qui est un ancien olympique de lutte, avec Michel Saunier, qui lui aussi était un très très bon lutteur amateur et très connu dans le catch, décide de faire une guerre à la mafia du catch, parce que c'est le terme. Hein, mm-hmm. Okay. Alors que eux sont des vedettes, ils arrêtent tout et ils lancent un truc social. Donc, à ce moment-là, une loi est signée, donc de 68 à 73, ils font une bataille à ces matchmaker managers. En 73, on signe une loi comme quoi les catcheurs, mais aussi les footballeurs, les boxeurs et les mannequins deviennent sous l'effigie du ministère de la Culture, donc intermittents du spectacle. Avec déclaration d'impôts, évidemment, fiche de paye d'intermittent du spectacle par combat, une fiche de paye, un cachet, assurance sociale, congé spectacle, assédic, etc. Donc pour le catcheur, une grosse couverture et quelque chose de bien. D'ailleurs, mon père est aujourd'hui le président de la commission des retraites au Gris et à la Sécurité sociale pour ceux ayant travaillé au noir avant 73, parce qu'eux, ils y étaient pour rien. Mmh. Vous comprenez ? Donc là, les médias, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon père et Michel Saunier faisaient des référés aux télévisions qui faisaient passer des galas où les gars travaillaient au noir, ce qui était normal. Donc tout ça mélangé, cette arnaque avec les langes blancs, les faux langes blancs et compagnie, ce coup de pression venant de mon père, il faut le reconnaître, par rapport à ce bien social construit, et des référés à la télévision, ils en ont eu marre, ils sont passés à autre chose. Et puis, c'était aussi la grande époque du football, ça commençait à exploser, et du tennis, évidemment. Donc, ils sont passés à autre chose. Donc, voilà à peu près les trois sessions, ce que j'appelle sessions, donc les trois périodes du catch dans notre monde français. Et aujourd'hui, on rentre avec moi dans la quatrième.
C'est ça. Alors, vous êtes mis en tête de relancer carrément ce sport en France, hein, de diverses manières.
Oui, alors voilà, moi j'ai eu un grave accident donc en 1989 et j'ai arrêté ce métier, obligé. Mais j'étais catcheur. Donc en 89, j'ai arrêté, j'étais la dernière vedette de Delaporte. Delaporte a arrêté, il a vendu l'Élysée Montmartre, il est parti, il a pris sa retraite. Et puis, je sais faire autre chose, mais il est vrai que c'est mon vrai métier et ma vraie passion surtout. Donc... dans les années 2000, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, les gars qui... Déjà, premièrement, on se retrouvait dans le même système qu'avant. C'est-à-dire que mon père, j'irais plus rien. Delaporte, il était vieux. Il n'y avait plus personne. Les autres, les truands, ils sont morts ou ils ont été déshabillés par l'État puisque forcément, des grosses amendes à payer. Et il y avait quelques mecs qui faisaient des gars de catch comme ça, une fois de plus, dans l'illégalité la plus totale. Alors là... avec le phénomène américain sur nos chaînes françaises, évidemment, on parlait de catch. Et qu'est-ce qui se passait ? Il y a des écoles qui poussent comme ça un peu partout dans la France, gérées par des mecs qui n'ont rien à voir avec le catch, ou alors par des escrocs. Avec des mômes qui se blessent, ils n'ont aucune couverture sociale. Moi, à partir de là, je suis revenu. J'ai dit, bon, ok, je vais me relancer dans ce truc-là. Donc déjà, moi, je me suis entraîné pour revenir, parce qu'il fallait, j'avais un nom à l'époque, étant champion du monde. J'ai dit, il faut que je reconquérisse un titre mondial. Donc j'avais plus 7 titres mondiaux en catégorie poids moyen et lourd léger. Il me fallait un titre poids lourd. Je me suis entraîné pour ça et j'ai repris le titre poids lourd en 2006. Donc là, j'ai fait le tour. Je suis open en titres mondiaux, toutes catégories et fédérations confondues. À partir de là, j'ai dit, bon, maintenant, on va faire autre chose. Je vais créer un centre de formation, non une école, un centre de formation. C'est-à-dire que... si vous préférez, si on prend le terme école, dans mon école ne viennent que ceux qui veulent devenir professionnels et non pas des jeunes qui veulent faire du loisir. Mmh. Ok.
Avec sélection, avec...
Alors, pas de sélection. Non. Comment ça se passe ? Entraînement direct. Je les entraîne. Ouais. Et au bout d'un mois, je vois s'il y a des capacités athlétiques et physiques
et mentales
ouais. pour pouvoir faire ce métier. Alors, évidemment, moi, je suis très dur.
Oui, on l'a vu dans la vidéo il y a sur Internet.
Bien sûr.
Ça rigole pas.
Bien sûr. Parce que figurez-vous que j'ai un côté social aussi dans mon histoire. Je m'explique. On a beaucoup, on s'aperçoit depuis 20 ans aujourd'hui, 25 ans aujourd'hui, qu'il y a des gens qui sont parqués dans ce qu'on appelle les cités et qu'il y a énormément de délinquance. Bon. Mais moi, je me suis aperçu au fil du temps que quand certains faisaient quelque chose pour eux qui les intéressait, il y avait une sortie pour ces jeunes. En l'occurrence, je vais citer Jamel Debbouze, qui a fait un truc pas mal. Il a gagné beaucoup d'argent, ce comédien-là. Il a réinvesti, il a fait Jamel Comédie. Il a sorti des mômes de cité qui étaient voués qu'à la délinquance, en fin de compte, et qui, en fin de compte, se retrouvent aujourd'hui à la télé en tant que comiques. Donc ces gars-là brillent, ils ont un métier, ils gagnent de l'argent et ils payent des impôts. Au lieu d'être délinquants, c'est quand même mieux. Il y a eu le rap, des années 80. On s'est aperçu que dans les cités, il y avait énormément de talents d'écriture. Quand on les entend parler, on dit « mais ils ne savent pas parler, ils ont leur langage à eux ». Eh bien non, ils savent parler, ils savent lire et écrire. Et la preuve, il y a des très beaux textes de fait. D'ailleurs, on a critiqué souvent Joestar. Mais Joestar, si vous prenez l'écriture de Joestar, vous verrez que dans certains textes, c'est une écriture sublime. Et il n'y a pas que de la méchanceté ni que de la haine dans ses propos. On va prendre une chanson, par exemple « Laisse pas traîner ton fils », entre guillemets, de Joestar. Bon, il y a quand même un talent inouï. Après, il y a eu la période Bernard Tapie, quand il était ministre de la Ville, et qui a amené un peu le football là-dedans. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un calme. Ça se calmait dans les cités quand Tapie était avec le football, en amenant des stars du football et tout. Alors je me suis dit, moi, ces jeunes qui se battent toute la journée, qui ont plein d'énergie à revendre, pourquoi pas les amener chez moi à la Catch Academy, les licencier à la Fédération Française de Catch et leur apprendre un métier en leur faisant comprendre qu'ils ont plus à gagner en étant un artiste de sport-spectacle qu'à être délinquant. Finir sur un trottoir une balle dans la tête ou terminer en prison. Vous comprenez ? Donc, moi, c'est ce côté social. Et je me suis aperçu que j'avais raison. Mais alors, là, vous me dites que je suis sévère. Là, si je ne suis pas sévère avec des mômes de cité, parce que les mômes, eux, ils ne sont pas encadrés. Hein. Le père, soit il est parti, ou soit il est là, mais il baisse les bras. Donc, si moi, je ne leur montre pas que je suis là, que je suis le grand frère ou le père, c'est terminé. Je me fais pisser dessus. Donc, à partir de là, je suis très dur avec eux, néanmoins très juste. Et c'est là que j'ai décidé la tournée.
D'accord. Et alors, combien de personnes dans cette Catch Academy pour l'instant, à l'heure actuelle, il y a combien de jeunes là ?
Alors, on peut l'estimer entre ceux qui sont absents actuellement parce qu'ils sont malades ou ils sont blessés, on peut l'estimer à 120 adhérents aujourd'hui. J'en ai eu plus, simplement, il y en a qui ont décroché. Il y en a que j'ai viré, il y en a qui ont décroché.
Avec des entraînements tous les jours ?
Alors, les entraînements, on peut les faire tous les jours. Actuellement, j'ai un gros problème d'organisation. On est en train de tout restructurer par nos sociétés. Je suis en tournée puisque je les emmène en tournée. Et là, je ne peux pas tous les jours. Donc actuellement, c'est le mercredi après-midi jusqu'en fin décembre. Et à partir de janvier, on va rouvrir le samedi, le mercredi, le soir pour les semi-pros et pros et le dimanche matin aussi pour les débutants.
D'accord. Donc la tournée, c'est 8, 9, 10 mois dans l'année ?
Alors voilà, la tournée, pareil. J'ai proposé à ces jeunes, parce que ces jeunes, il faut bien leur dire, vous êtes pas méchants, mais sévères avec eux. Vous les faites transpirer, ils prennent quand même des coups, ils se font mal. Et si vous leur amenez rien au bout, ils disent « Non, merci, c'est pas bon ton truc, on voit rien venir ». Donc j'ai décidé d'appeler cette tournée la Catch Academy Tour, c'est-à-dire l'école de catch en tournée. Dedans, j'ai joint des professionnels. Qui, eux, sont payés, en revanche. Ceux-là ne sont pas payés, les jeunes, mais les pros sont payés. Faire un mélange pour que les pros dirigent ces jeunes-là sur le ring. Et pour leur faire comprendre que j'étais juste, j'ai organisé une tournée. Simplement pour l'organiser. Aucune ville n'aurait acheté mon plateau, puisque j'ai voulu faire ça en show à l'américaine, ce que les gens recherchent aujourd'hui. Donc, il m'a fallu acheter toute une technique, pont de lumière, sono, etc. Et bien entendu, les véhicules qui vont avec, dont un autocar 50 places avec toilette, télévision dedans. Donc, tout ça, ça coûte de l'argent. Et j'ai décidé de produire, parce que si je vendais un plateau, je l'aurais vendu tellement cher, au prix que ça me coûtait, que personne ne me l'aurait acheté. Donc, il fallait faire reconnaître le catch avant de vendre. Et donc, j'ai produit. Et donc, toutes les villes ont dit oui. Je ne les ai pas toutes prises, puisque j'ai 500 villes en portefeuille et j'ai pu en faire que 168, puisque je suis parti en février et je termine le 22 décembre à Vissous. Voilà. Donc, je suis parti avec ces jeunes en tournée.
D'accord. Les villes les plus prestigieuses sont lesquelles ? Où vous êtes
Alors, ce n'est pas des villes, ce sont des régions.
Ouais.
On va citer quelques régions qui sont vraiment fans de catch. Le Nord-Nord-Pas-de-Calais.
Oui, oui.
Ils ont toujours été vraiment un très bon public. La Bretagne, l'Est de la France. aussi, toute la région Alsace, Haut-Rhin, Bas-Rhin, voilà, cette région-là. Maintenant, je m'aperçois qu'aujourd'hui, le catch qui était un spectacle pour le peuple, vraiment un spectacle populaire, eh ben aujourd'hui, il y a une tendance quand même. Il y a une tendance. Et moi, je vois qu'en allant dans des villes entre guillemets riches ou bourgeoises, eh bien, je fais du monde aussi. Bizarrement.
Ouais, combien de personnes en moyenne comme public
Alors écoutez, c'est pas ce qu'on a connu à l'époque, les 5000 personnes ou 10 000 personnes de l'époque. Il faut être objectif. Si je fais une moyenne sur la tournée qui va toucher sa fin bientôt, donc il me reste une dizaine de galas, je dois être à une moyenne de 350-380 entrées par soir. C'est-à-dire, on s'est vu catcher devant 60 personnes. Mais on s'est vu aussi catcher devant un peu plus de 1000 personnes. Alors ça dépend des villes. Et puis il y a aussi un problème marketing, je ne peux pas tout gérer. Alors c'est nous qui faisons tout, l'affichage, on fait tout. J'ai une équipe d'affichage qui vient dans les villes avec des panneaux, mais on nous vole les panneaux. Donc il faut qu'on travaille là-dessus, on est en train de travailler là-dessus, bien évidemment.
Avec des gens, avec des publics qui se piquent au jeu, parce que naturellement vous présentez ça sous forme de show à l'américaine, comme vous dites.
Exactement, et c'est ce qui est formidable dans le catch, c'est que le public fait partie du spectacle, fait réellement partie du spectacle. Les gens ont compris ce qu'était le catch aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque, il y a 25 ans. Ils l'ont compris, ils savent que c'est un spectacle sportif.
C'est pas un sport, c'est plus un spectacle.
C'est pas, on peut pas dire que c'est un sport dans le sens où on fera jamais les Jeux Olympiques.
Oui, mais il y a une préparation physique, il y a des sportifs de niveau.
Si on parle de sport, on va parler de lutte. Un lutteur va faire les Jeux Olympiques. Bon. Le catch, non. C'est plus basé sur le show. Enfin, il faut avoir des qualités vraiment physiques. Faut être affûté, quoi. Et d'ailleurs, les mecs s'entraînent comme des sportifs de haut niveau.
Voilà, c'est ça.
Absolument, absolument. Absolument, c'est très dur sur un ring parce que...
Avec une notion de poids aussi.
Bien entendu, il y a des catégories, évidemment. Ouais. Alors, le gars qui veut rester dans sa catégorie, bien entendu, il fait des régimes pour rester dans sa catégorie, absolument. Oui.
Est-ce qu'on gagne bien sa vie maintenant? Parce que vous, à votre époque, vous l'avez bien gagné, votre vie, correctement, aujourd'hui
Largement correctement, oui. Une époque. Largement correctement, mais là encore, c'est... si on prend le catch, alors on va prendre le catch, on parle du catch en France actuellement, parce qu'après, on va être complètement déconnecté si on se met à parler des Japonais, des Américains. Les Américains, c'est des millions de dollars à l'année, enfin c'est superstar, mais là, on parle des États-Unis. Les États-Unis, c'est les États-Unis, nous sommes d'accord, tout est démesuré là-bas. Si on parle du catch en Europe, oui, alors le catch en Europe, à une époque, vous aviez les vedettes qui gagnaient beaucoup d'argent. Vous aviez les moyens qui gagnaient moyennement leur vie et les petits qui gagnaient petitement leur vie. Comme dans la chanson, comme dans le cinéma, comme dans le football. Voilà. Alors, la vedette, évidemment. Pourquoi la vedette? Parce que la vedette, elle amène du monde. Donc, la vedette a déjà un gros salaire et après, elle est à un pourcentage avec l'organisateur. Vous comprenez? Un pourcentage sur les entrées. Après, il y a des produits, merchandising, des produits vendus. Là aussi, elle touche. Des droits de diffusion, où elle touche aussi. Aujourd'hui, on n'en est plus là, je vous le dis tout de suite. Les salaires sont minables, puisqu'on reprend tout à zéro. Moi qui suis le patron et qui catch encore aujourd'hui, je devrais être très bien payé, le mieux payé tout du moins. C'est ce qui était le cas avant quand les patrons, les managers étaient catcheurs. C'est eux qui se rinçaient avant. Moi, je suis le catcheur et le patron le moins payé du monde. C'est-à-dire que je gagne absolument rien, voyez-vous. Bon, mais moi, je repars dans ce métier-là. Aujourd'hui, ce que je vais vous donner, si vous voulez le savoir, je n'ai pas de tabou là-dessus. Aujourd'hui, un catcheur, un bon catcheur va gagner 150 euros. Ce qui est déplorable quand même. 150 euros par gala. Ce qui est déplorable. Bon, alors là, je suis en train de tout recycler.
Donc, il lui faut une deuxième activité en parallèle, quoi.
Alors, oui, mais aujourd'hui, ce sont des jeunes, ils n'ont pas d'activité du tout. Donc, voilà. Alors, mais là, on est en train de changer. On vient de monter une société de production. OK. Cette tournée a fait que j'ai énormément de financiers qui viennent, donc des sponsors, on peut appeler ça comme ça. Et à partir de là, je veux, parce que je monte un syndicat aussi, par rapport au catch, le syndicat des catcheurs professionnels et amateurs.
Ouais, comme pour beaucoup de sports professionnels.
Mais oui, mais pour défendre mon métier et protéger mes mômes. Protéger mes
footballeurs, les cyclistes ont leur syndicat.
Et là, je demande un tarif syndical minimum de 600 euros par gala pour mes catcheurs. Mmh. Alors, 600 euros, c'est le tarif syndical si on prend sur le cinéma, sur la chanson, sur... Enfin, voilà, c'est le tarif. Alors là, les gars commencent à gagner de l'argent parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, les salaires hein, en France sont pas énormes. 600 euros, le gars a 3 galas par semaine, voyez. Bon. Et après, il a droit aux acédiques puisque moi, je dois lui amener au moins 52 galas par an, ce qui fait qu'après, il a ses acédiques. D'accord. Mais ça, c'est pour tout le monde. C'est le tarif syndical. C'est ce à quoi je veux arriver. Ensuite, évidemment, j'en ai un franco-algérien. Bon, il est français, mais d'origine algérienne, qui sera une superstar. Mmh. Il s'appelle Driss Jafali. Ce garçon-là, je pense qu'il gagnera des millions dans les 10 ans à venir.
À condition de quitter la France ?
Alors... Mes meilleurs vont forcément quitter la France, puisque je vais faire des échanges avec les fédérations étrangères, évidemment, déjà pour moi, pour avoir des étrangers dans mes prochains tours, et puis pour que mes jeunes aillent travailler, aillent apprendre un autre catch à l'étranger et se fassent connaître à l'étranger. Mais un bon catcheur demain gagnera très bien sa vie, effectivement.
D'accord, donc c'est un sport qui va redémarrer, quoi, et les médias qui, à nouveau, s'y intéressent de plus en plus, hein, parce que
alors, vraiment,
vous êtes avec nous ce matin, mais vous avez répondu à un tas... d'interviews tout au long de la semaine, hein, que ce soit
oui,
sur TF1,
tout à fait.
France Télévisions, chez Coé, partout. Hein.
Tout à fait. Partout. Je pense que les médias aujourd'hui s'intéressent. Alors, j'y suis aussi pour quelque chose.
Ouais, c'est un signe, ça. Hein.
J'y suis pour quelque chose. Si vous préférez, la tournée que j'ai faite, et je vous en parle, je vous dis vraiment sans tabou, la tournée que j'ai faite, j'ai perdu à peu près, en moyenne, 1000 euros par jour. Puisque mon point mort était de 500 personnes. Donc, je ne faisais jamais 500 personnes de moyenne. Puisque
oui, parce qu'on va préciser aussi que vous allez dans les villages de 1000 habitants. Hein.
Ah oui, 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 moi, je ne suis pas un artiste qui fait de la ségrégation sur les villages de France. Mmh, parce qu'on parle beaucoup de la France profonde, mais personne ne veut y aller. Tout le monde veut faire Bercy et le Zénith, et personne ne veut aller donner son talent dans les petites villes. Moi, je veux y aller, et je suis comme un chef d'entreprise en disant « Eh ben, je perds du pognon dans une petite ville ». Mais je vais rencontrer les gens et je gagne du pognon sur les grosses villes. Bon, ce qui n'a pas été le cas cette année, puisque je vous dis, à 1000 euros en moyenne par jour de perte, je suis à 170 000 euros de perte que ça m'aura coûté. Néanmoins, il faut être honnête, cette tournée m'a amené une publicité que je n'aurais pas pu me payer sur les gros médias. TF1, France 2, etc. Toutes ces chaînes de télévision, la publicité est très chère. Parce qu'à force de voir mes véhicules tourner dans toute la France à travers 93 départements, à force de nous voir tous les jours dans les journaux régionaux, puisqu'on est tous les jours dans les journaux régionaux, en fin de compte, les gros médias se sont servis. Puis j'ai quand même fait descendre un Américain qui est la superstar de mon spectacle, Grotte Caroli. Bon, là, ça me coûte cher aussi, mais j'ai quand même une vedette américaine qui est dans mon tour.
Il n'y a pas d'autres catcheurs qui ont envie de faire comme vous, qui ont lancé une tournée parallèle ?
Alors,
parce qu'on voit sur le site internet, on voit que d'autres proposent aussi des spectacles.
Voilà, alors le souci, là aussi, et il faut être honnête, eux n'ont pas eu les moyens que j'ai eus au départ, financiers, pour démarrer tout ça. Il fallait avoir les moyens financiers. Bon. Moi, j'ai fait une ouverture dans mon métier en disant, voilà, je mets tout le monde dans la légalité, tout le monde est dans l'illégalité. Je mets tout le monde dans la légalité. Ceux qui veulent me suivre, me suivent. J'ouvre. On fait un syndicat, vous vous syndiquez tous. Vous, vos élèves, vos catcheurs, tout le monde est syndiqué là-dedans. Alors, j'en ai plusieurs qui ont répondu oui et qui se sont mis avec moi. Donc, l'avantage qu'ils ont, c'est que moi, c'est de moi dont on parle le plus actuellement. Donc, ils ont du travail sans trop s'ennuyer, mais ils restent maîtres de chez eux, de leur structure. Par exemple, je vais vous parler, j'ai un gars qui est Pierre Booster Fontaine, qui est dans le Nord, qui est à Lille, qui est un garçon très sérieux, un bon catcheur en plus, assez connu, et qui lui a une petite structure, mais qui joue plus sur le catch américain, voyez-vous, mais qui a un public, il a des fans, il y a RTL9, des forums comme ça, où on parle beaucoup de catch américain, parce qu'il y a vraiment une tendance, et où ce Pierre Booster Fontaine est fait des galas à thème, avec des noms d'affiches, tout ça. Bon. Ce gars-là, j'ai discuté avec lui, qui était un concurrent à moi, en fin de compte. On a discuté ensemble, on est tombé d'accord, et ce gars-là travaille avec moi. C'est-à-dire que lui, il a des gars-là, par exemple, il en a un demain, dans l'est de la France, à Saint-Avold, je crois. Il prend des gars à moi. Mmh. Et moi, je le prends, et je prends ces gars à lui. Moi, en revanche, je lui fais des fiches de paye, avec, bien entendu, le syndicat et la couverture sociale. Et lui aussi va y venir. Bon, pour l'instant, lui, il a le droit. Il est dans la légalité parce que je crois qu'il travaille sur l'association. Je crois que c'est 6 à 8 galas par an avec une extension de 2 galas. Disons une dizaine de galas détaxés. Donc, il a le droit de le faire. Bon, il y en a un autre qui est à Beauvais, qui s'appelle Olivier Grillon, qui est le président de la BCA de Beauvais. Donc, pareil, club de catch, école sérieuse, old school, à l'ancienne. Lui, comme moi, plutôt dans ma direction, pareil, qui s'est greffé à moi. Donc lui, pareil, il travaille avec moi. Vous voyez, moi, j'essaye de réunir tout le monde pour que notre métier prenne forme, et je dois le reconnaître, soyons francs, faire une concurrence dans mon pays aux Américains.
D'accord. De toute façon, c'est un investissement sur long terme.
C'est un investissement sur long terme, et je pense que quand je serai plus là, le catch continuera parce que j'aurai redonné ce qu'on m'a donné. Il faut redonner aussi dans la vie. Moi, on m'a beaucoup donné quand même. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis un catcheur qui a eu de la chance. J'avais un père qui était catcheur, qui était connu, qui a monté les statuts sociaux. Donc, je suis en plein dans la soupe. Moi, j'ai grandi là-dedans. Moi, tout le monde, ça fait 50 ans que je suis là-dedans. J'ai tout vu. J'ai vu les plus grands chez moi. Et puis, j'ai eu Roger Delaporte, qui était derrière moi, qui a financé derrière moi alors que j'étais tout jeune. Donc, j'ai eu une chance inouïe. J'ai pu aller aux États-Unis. J'ai pu voyager dans le monde entier par mon métier et ne vivre que de ça, ce qui est quand même extraordinaire quand on peut vivre de sa passion.
Bien sûr. Entre vous, vous revoyez entre anciens champions, entre anciens grands catcheurs. Vous avez encore des rapports ?
Il y en a beaucoup qui sont morts, malheureusement. Il y en a qui sont gâteux. Et puis, j'en vois. Alors, il y a une réunion tous les ans qui s'appelle la réunion des anciens. Alors, c'est au bateau Mouche à Paris. Voilà, tout le monde peut se rencontrer, évidemment, de ce qui reste, évidemment. Oui.
Ouais. Donc, vous êtes aussi président de la Fédération française de catch professionnel.
Oui, hein, que j'ai reprise à Roger Delaporte.
Quelles sont aussi vos actions en faveur des clubs ? Est-ce qu'il y a des clubs de catch qui se montent un peu partout en France ?
Alors, mon objectif. C'est justement, alors voilà, parce que là, ça fait quand même qu'un an et demi que je suis reparti avec tout ça. Donc, Paris ne s'est pas fait en un jour. Dans les, disons, 5 ans à venir, il y aura un gros centre de formation par région.
D'accord, oui. Donc
un gros centre de formation par région, géré par la FFCP et certainement géré par la ICWA, qui est maintenant celui qui était, je vous disais, mon concurrent de l'époque, qui est aujourd'hui mon allié et mon associé, qui lui a un club et une école dans l'est, dans le nord de la France, à Lille, à l'Aventy exactement. Et on va gérer ça tous les deux. On va essayer d'ouvrir des écoles dans toutes les régions de France.
D'accord. Donc pour les jeunes ce matin qui voudraient faire ce sport, qu'est-ce que vous leur conseillez ? D'abord, beaucoup de travail. Il faut commencer par un sport comme la lutte.
Pas du tout. Non. Je leur conseille déjà de me contacter. Oui. Hein, donc, ils vont sur mon site ffcatch.com où ils font Catch Academy, ou Marc Mercier, il y a des liens partout. Ils me téléphonent ou ils téléphonent à quelqu'un de mon staff. Ils prennent rendez-vous, ils viennent à l'entraînement. Survêtement, basket, ça suffit. OK. Ils n'amènent pas d'argent, ils n'amènent rien. Ce n'est pas la peine de payer au départ. Ils viennent, ils s'entraînent, on fait des essais. On voit si ça leur plaît. Alors, ensuite, je leur donne les conseils par rapport à leur physique, évidemment. De surentraînement en dehors de l'entraînement que je leur donne, bien évidemment.
Bien sûr. Une carrière, ça dure combien de temps, Marc ?
Oh là là.
Ça peut durer très longtemps.
Alors là, ouais. Alors là, vous me posez une question, je suis très embarrassé. Il y a des carrières qui durent 6 mois, il y a des carrières qui durent 10 ans, il y en a d'autres qui durent 30 ans, ce qui est mon cas. C'est rare, c'est exceptionnel, avec les blessures que j'ai eues en plus. Ça dépend. Mais le catch aussi est ainsi fait qu'on peut aller plus vieux. Parce que quand on est plus vieux dans le catch, généralement, on est en poids lourd. Le poids lourd catch moins rapidement que le poids léger. Moi, j'ai commencé en poids moyen. Hein. J'étais affûté. Hein. Aujourd'hui, je fais 109 kilos. C'est différent. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Donc, 109 kilos, c'est plus lourd à traîner sur un ring. Donc, c'est moins rapide. C'est plus les combinaisons qu'on fait quand on a 20 ans, évidemment. Donc, on peut aller assez loin. Mais, puis aujourd'hui, on se nourrit plus comme avant. On a une vie beaucoup plus saine. On reste sportif beaucoup plus longtemps aussi aujourd'hui. Et d'ailleurs, on s'en aperçoit dans tous les sports. Hein. Ouais. Football, boxe, partout, les mecs vont de plus en plus loin. Hein.
Il y a des compétitions officielles, championnat de France, championnat d'Europe, championnat
oui,
de
alors
ça
là,
se
c'est
passe
pas,
comment, ça se passe ça, comment pour le grand public ?
Alors, ça, c'est par fédération. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, bien entendu, ce sont les meilleurs ou les tenants de titres qu'en rencontrent d'autres fédérations, ou voire dans la même fédération. Bon, alors là, généralement, que le meilleur gagne. Voilà, et généralement, c'est le meilleur qui gagne. Alors après, ça se termine en lutte, quoi. Voilà, il y a toujours ce côté spectacle parce que les mecs sont des businessmen. Hein. Moi, je dis le catch. Hein. Pour être catcheur, il faut être 50% sportif, 50% comédien et 100% showman. Hein, voilà, vous avez tout compris voilà. À partir de là.
Est-ce que c'est un sport réellement dangereux pour les parents qui nous écoutent? Est-ce qu'on peut considérer ce sport comme un sport à risque?
Oui, alors je crois que si on parle de ça, c'est celui qui est le plus dangereux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous allez à la boxe, j'ai été dans des clubs de boxe il n'y a pas longtemps, voir des entraînements de jeunes, ils ont tous des casques, ils ont des gants d'un certain poids qui font pas mal avec des casques. Le catch, il n'y a pas de protection. Et le problème, c'est qu'un ring, c'est un plancher avec une légère couche de sorbetane dessus et une bâche. Alors évidemment, vous avez un ressort central en dessous du ring pour amortir les chocs. Le problème, si vous tombez sur le cul, vous vous pétez une vertèbre, vous écrasez la queue de cheval, compression de la moelle épinière. Si vous tombez sur le cou, vous vous pétez les cervicales. Donc il y a des procédures de sécurité à respecter, ce que je fais, rentrer la tête, claquer les bras, relever le cul. Bon, tout ça, je le dis pendant l'entraînement, je le répète 1000 fois à chaque coup. On a des techniques justement pour
tomber,
éviter les accidents.
À tomber,
maintenant,
ouais.
Si un môme, ce qui s'est passé, le phénomène aux États-Unis, et c'est pour ça que je vais voir pour faire voter une loi à un moment donné, parce que tout le monde va ouvrir, comme le 4 juin va repartir, tout le monde va ouvrir des écoles, et ce ne sera pas des professionnels qui vont entraîner les mômes, mais là, on peut être paralysé à 13 ou 14 ans. Et là, il faut vraiment avoir le matériel de sécurité autour et avoir des gars qui encadrent bien. Oui, c'est très dangereux. Un môme qui fait ça dans son jardin, c'est très risqué.
Oui, donc, très faut risqué. Le faire avec précaution.
Très risqué.
Éducateur sage, raisonnable. Ah,
évidemment. C'est comme les Yamakasi. Si vous voyez les Yamakasi, c'est des mecs qui sont super entraînés, qui sautent d'un toit à l'autre. Maintenant, un môme, il voit ça, il veut sauter d'un toit à l'autre, il n'ira pas. Il va tomber au milieu. Donc, il faut faire très attention.
Est-ce que il y a déjà des jeunes qui ont des surnoms chez vous? Et d'où viennent ces surnoms parce que ça aussi, ça faisait partie un peu du mythe du catch.
Oui, alors là, ça a changé. Avant, c'était plus basé sur les personnages. C'est-à-dire, on avait des noms comme l'Ange Blanc, le Bourreau de Béthune, c'était des personnages. Et c'était les matchmakers, managers qui géraient ça. Bon. Aujourd'hui, c'est différent. Les mômes vont tous sur les forums. Alors, ils ont ce qu'on appelle des identifiants. Quoi, voilà. Par exemple, j'en ai un qui est un très bon qui s'appelle Dimitri Soliotopoulos. C'est un franco-grec, mais son nom d'identifiant sur les forums, c'est Rosto. Alors du coup, on l'appelle Dimitri Rostosoliotopoulos. Vous voyez, là peut venir aussi cet identifiant, peut devenir un nom.
D'accord. Marc, on va rappeler quand même où vous allez en tournée dans les prochaines semaines. Et puis, rappeler que pour ceux de la région, ils peuvent vous voir sur Vissou. C'est le 22 décembre prochain.
Oui, alors là, c'est... Hein pardon, c'est une grande, grande fête, puisque c'est déjà, c'est ma ville. C'est de là que est parti, la Catch Academy, la Fédération Française de Catch, à Vissou dans l'Essonne, à côté d'Antony, très proche de la porte d'Orléans.
Orly, à côté.
Orly, juste derrière les pistes d'Orly. Alors là, ça va être le dernier jour de la tournée 2007. Sinon, on est samedi à Loris, dans le 45.
Dans le Loiret.
Dans le Loiret. Ensuite, on est à Moreuil, dans la Somme, le week-end d'après. Rouffac, dans l'Est de la France. Troyes, la ville de Troyes. Et puis, on termine par Vissou, quoi. Une ou deux que j'ai oubliées, puis on termine par Vissou.
Alors, on va dire qu'il y a aussi des élus qui sont avec vous, qui vous soutiennent dans cette démarche, dans cette opération. Hein.
Oui, oui. Alors, j'ai déjà, évidemment, mon maire, Richard Trinquier, qui est le maire de Vissou, qui est un homme qui m'a énormément aidé. Et en discutant avec des politiques, des amis politiques à lui, ces gens-là ont discuté avec moi sur cette notion, justement, sociale, qui les intéresse énormément, de savoir si moi, je serais d'accord à aller dans des cités entraîner des jeunes. Moi, j'ai dit oui, j'ai dit ok, vous me mettez les salles et les assurances à disposition, je vais les entraîner et les élites, les meilleures, je les ramène à la Catch Academy. Je ferai un casting directement dans les cités, d'ailleurs. Pour ceux que ça intéresse, pour les jeunes, évidemment que ça intéresse.
D'accord, ok. Et puis on espère vous revoir un jour sur Rambouillet ou sur Poigny, ou sur le Perret ou dans la région. Hein.
Évidemment, et il ne faut pas oublier que c'était une région à catch aussi à l'époque.
Oui,
bien sûr, on l'a fait Rambouillet avec Roger Delaporte.
Très bien, merci Marc. Et puis,
je vous en prie.
Bon retour et puis à très bientôt.
À très bientôt.
Merci beaucoup.
Marc. Merci. Au revoir.
Il est 10h. Bon dimanche sur RVE.